SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Dimanche 21 avril 2024, vous êtes sur le programme en français de la radio SBS. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué l'actualité de cette semaine. Allez, aujourd'hui avec Valentine Saboureau, nous revenons sur le parcours de Maryse Condé, grande dame de la littérature, auteure d'une œuvre souvent axée autour de l'identité et des origines. Elle était aussi une inlassable gardienne de la mémoire de l'esclavage et une figure majeure de la lutte contre le colonialisme. Bonjour Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Lundi 15 avril, c'est donc à la Bibliothèque nationale de France que le président Emmanuel Macron a choisi de rendre hommage à Maryse Condé, immense écrivaine guadeloupéenne qui nous a quittés dans la nuit du 1er au 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Auteur de sagas, de romans, de pièces de théâtre, de livres pour enfants et même de recettes de cuisine, elle avait obtenu en 2018 le prix Nobel de littérature alternative. Saluée comme une conscience caribéenne, européenne, africaine, universelle par le chef de l'État, elle fait aussi l'objet d'une tribune qui souhaite tout simplement la faire entrer au Panthéon.
Cette tribune dont vous parlez, Valentine, c'est celle publiée dans Le Monde il y a quelques jours et portée par les associations noires.
Oui, selon elle, Maryse Condé a toute sa place auprès d'Aimé Césaire, le grand poète de la négritude, mais aussi de Joséphine Baker, Victor Schœlcher ou Félix Eboué. Élevée à Pointe-à-Pitre dans une famille bourgeoise qui valorise l'éducation et la littérature, elle est néanmoins laissée dans l'ignorance de ses racines africaines et c'est seulement en arrivant en France à l'âge de 16 ans pour poursuivre ses études qu'elle prend conscience de ses origines. En fréquentant Françoise Bruat, fille de l'historien Jean Bruat, elle comprend, je cite, « le sens du mot colonialisme, colonisation, identité, origine, dépossession ». Elle réalise pourquoi il y a des Noirs aux Antilles. Dès lors, elle ne se dit plus française, mais guadeloupéenne et indépendantiste. En 1959, elle décide de partir pour l'Afrique. Elle vivra en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Sénégal. On l'écoute.
Et en fait, arrivant en Afrique, je me suis rendu compte que j'étais très près de moi-même et que je découvrais tout un aspect de ma culture, un aspect de moi-même et de l'héritage de mes parents que je ne connaissais pas.
Elle revient en France en 1970 avant de s'installer en Guadeloupe pour tenter de se réconcilier avec son île. Finalement, elle part s'installer aux États-Unis où elle restera 20 ans avant de rentrer définitivement en France. Très engagée, elle préside de 2004 à 2009 le Comité pour la mémoire de l'esclavage et contribuera à la mise en place de la journée de commémoration de l'esclavage fixée au 10 mai par le président Jacques Chirac.
Cette vie de voyage a évidemment nourri une œuvre abondante, écrite en Maryse Condé.
elle disait, un écrivain invente au fur et à mesure et forge sa langue à lui. On l'écoute ici pour France 24 en 2019. Elle était déjà diminuée par une maladie neurodégénérative héréditaire.
Quand je dis j'écris en Marie Condé, je veux dire que j'ai pas de langue, ni français, ni créole. Je forge, j'invente musique et son et sens. C'est de moi que ça vient, de personne d'autre.
Alors, elle commence par écrire des contes, des nouvelles, mais aussi des articles, puisqu'elle a été journaliste. En 1976, elle publie son premier roman, Erre Makono. Avec Ségou, une saga en deux volets sur l'Empire Bambara du Mali au XIXe siècle, publiée en 1984-1985, elle connaît le succès et gagne suffisamment d'argent pour s'acheter une maison en Guadeloupe. Avec Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, elle reçoit sa première récompense avec le Grand Prix littéraire de la femme. Elle accumule ensuite les distinctions, notamment pour Désirada, Le cœur à rire et à pleurer, ou Les Belles Ténébreuses. Enfin, la reconnaissance ultime lui est apportée avec le prix Nobel de littérature alternative, décerné le 12 octobre 2018. Elle est en lice à l'époque contre le Britannique Neil Gaiman, la Québécoise Kim Thuy et le Japonais Haruki Murakami. Elle décrit dans son œuvre les ravages du colonialisme et le chaos post-colonial dans une langue à la fois précise et bouleversante, a salué le jury suédois. En France, elle a été faite officière de la Légion d'honneur et Grand Croix de l'Ordre du Mérite.
Valentine, elle a toujours nié être féministe et pourtant...
Elle a eu 4 enfants et 2 époux, dont Richard Philcox, également son traducteur, avec qui elle est restée mariée 40 ans. Elle se disait dépendante de lui et donc tout sauf féministe. Pourtant, son parcours, sa liberté et ses amours ont tracé un chemin pour beaucoup. Et bien sûr, on pense à toutes les femmes qui peuplent ses livres. Et là, je la cite encore. Toutes les héroïnes de mes romans, par exemple, s'interrogent comment se réaliser, non pas seulement en tant qu'être humain, mais en tant que femme, en dehors des passages obligés, l'amour et la maternité. Elle aura aussi inspiré une génération d'écrivaines francophones comme Leila Slimani, Gisèle Pinault, Nadia Chonville ou Gaëlle Octavia, pour n'en citer que quelques-unes. Immensément connue aux États-Unis, qui la célèbre autant que Toni Morrison, le New York Times lui a d'ailleurs consacré un long article intitulé « Marie Condé at home in the world ». Elle est beaucoup moins connue en France. Je vous invite donc à la lire, comme elle-même le recommandait aux auditeurs de SBS French, c'était en 2005.
Faites connaissance non seulement avec Marie Condé, mais aussi peut-être avec la Guadeloupe, avec une partie du monde que vous ne connaissez pas, qui a des problèmes différents des vôtres, mais enfin, tous les problèmes sont des problèmes humains, donc toujours intéressants.
Merci beaucoup Valentine Sabourot. Impératrice sur les ondes de SBS Audio avec le titre « Méda égale ». On reste avec Marie Condé dont vient de nous parler Valentine Sabourot. La romancière guadeloupéenne, on le rappelle, s'est éteinte le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Elle a reçu un hommage national à la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, il y a quelques jours. Et bien en 2005, il y a 19 ans déjà, nous avions eu la chance de la recevoir sur SBS French lors de son séjour en Australie. C'est une archive signée Jean-Noël Ducasse, deuxième partie.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Quelle est votre définition d'une créole ?
Simplement, justement, c'est un peu le sujet d'une causerie que je vais donner ce soir. Je crois que c'est une question d'intérieur. Avant, il y avait une définition très étroite qui disait qu'un créole, c'est celui qui est né dans l'île, par opposition à un bossal, c'est-à-dire quelqu'un qui y était arrivé, un Africain arrivé du dehors, par opposition à un blanc peut-être arrivé du dehors, il fallait que le créole soit né dans l'île. Maintenant, je pense et parle aussi une certaine langue qui était le créole. Maintenant, on dirait que la définition s'est élargie. Toute l'immigration antillaise que nous avons en France, par exemple, seconde génération des gens qui naissent à Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon, ben, ce sont comme des créoles parce que leurs parents leur inculquent une forme de culture et d'éducation qui appartient, qui leur vient de leur origine insulaire. Donc finalement, la notion d'être né est devenue beaucoup moins importante, c'est devenu une sorte de subjectivité que chacun de nous porte en lui et défend envers et contre tout.
Et quand ces personnes reviennent en Guadeloupe, par exemple, est-ce qu'elles parlent le même créole de l'époque ?
C'est-à-dire, des fois, elles ne parlent pas créole du tout. Mais nous avons appris aussi qu'on peut être un Antillais de cœur et ne pas, à cause des circonstances compliquées de la vie, ne pas parler créole, l'apprendre plus tard, l'apprendre au hasard de la vie. Mais il n'y a plus, il me semble, cette espèce de définition étroite qui voulait que l'Antillais soit celui qui est né dans l'île, qui parle créole, et puis c'est tout. On admet maintenant que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus souple, et qu'à cause de tous ces problèmes de globalisation, mondialisation, comme on dit, ben les gens, ils naissent un peu partout, c'est pas de leur faute. Ils apprennent un peu n'importe quelle langue, on ne peut pas les définir uniquement par ces critères-là.
Marie Condé, quand vous grandissiez, qu'est-ce que l'Afrique, par exemple, représentait pour vous
Elle ne représentait absolument rien. J'appartenais à une famille où on ne parlait jamais de l'Afrique. C'est pas qu'on avait honte d'elle, pas du tout, mais il y avait une totale ignorance, méconnaissance. Il a fallu que assez grande, enfin adulte, au cours de mes études, j'aille la chercher moi-même. Mais enfin, tant que je grandissais, c'était plutôt une absence, un inconnu.
Et donc, si je ne me trompe pas, vous êtes parti vivre en Guinée, c'est ça ?
Oui. Mon premier mari était un Guinéen, nous sommes partis en Guinée juste après l'indépendance de la Guinée, c'était symbolique, un refus de continuer à porter un masque blanc, comme dit Fanon, et puis essayer d'apprendre ce que le fait de la race, comme on disait alors, maintenant on ne dit plus tellement ce mot-là, la race signifiait aussi quelque chose de culturellement différent.
Et votre séjour en Afrique, comment ça s'est passé ? Quel regard portez-vous sur ce continent ?
Ben, c'est un séjour qui est extrêmement riche et douloureux. Et une série d'éléments positifs qui ont fait finalement de moi ce que je suis devenu, mais aussi qui m'ont appris, qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité beaucoup plus complexe. Le monde n'est pas seulement divisé en blanc et noir. Il y a en fait des gens qui sont natifs des Antilles ont à la fois participent à la fois de ces deux univers et puis sont très complexes. Il n'est pas facile de se trouver, de se définir.
Maryse Condé, est-ce que je peux vous demander de nous décrire un petit peu vos projets pour l'avenir? Je sais que vous êtes enseignante à Columbia University aux États-Unis.
Oui,
ces jours-ci.
Dieu seul sait, pris ma retraite il y a 2 ans. Donc, je n'ai plus la corvée, enfin, corvée pas tellement désagréable. Enfin, je n'ai plus de devoir d'enseigner. Je n'ai plus à me consacrer qu'à l'écriture. Écrire pour les adultes, bien sûr, mais aussi beaucoup écrire pour les enfants. Mes petits-enfants me réclament que j'écrive pour eux. Et finalement, faire un peu de théâtre aussi avec des jeunes troupes de théâtre guadeloupéennes. Donc finalement, maintenant faire beaucoup plus de place à l'écriture que peut-être auparavant.
Donc vous faites le va-et-vient entre les États-Unis et la Guadeloupe?
Nous essayons de vivre, mon mari et moi, 6 mois à New York, 6 mois en Guadeloupe. C'est un peu compliqué des fois, ce constant déménagement. Mais enfin, je pense aussi qu'il est bon d'avoir deux horizons, deux manières de vivre, c'est-à-dire deux manières de penser, de regarder le monde, de se regarder, et que nous allons essayer, autant que faire se peut, de préserver ce voyage, ce déplacement.
Maryse Condé, peut-on revenir sur le but de votre visite en Australie? Vous êtes venu principalement pour la conférence organisée à Perth, la 13e conférence de la Australian Society of French Studies.
Oui, il fallait ce qu'on appelle un keynote speaker, des keynote speakers. Et alors, mon mari et moi, nous avons été chargés de cette tâche très prestigieuse. Le colloque de Perth avait pour thème inclusion-exclusion. Alors, il fallait montrer un peu comment cette littérature francophone, comment une Guadeloupéenne, un écrivain francophone s'inscrit ou ne s'inscrit pas dans la problématique de la littérature, disons, universelle. C'est surtout ça. Et ensuite, nous aurons un autre colloque qui s'appelle Middle Passage, à Fremantle, je crois, et puis un autre colloque à Nunoxia. Donc, vous voyez, nous avons un programme
très chargé. Et sinon, est-ce que vous aurez le temps de faire du tourisme lors de votre séjour ici en Australie?
Je ne pense pas. Je pense que les 3 derniers jours, nous allons venir quand même à Sydney. Ça serait malheureux de venir en Australie et de ne pas connaître Sydney. Alors il y aura 3 jours, c'est bien court, où nous ne penserons qu'à nous. Et nous allons essayer de goûter un peu à Sydney, au charme de Sydney. Mais à part ça, ici à Perth, l'association des professeurs est très gentille, très dévouée, très attentionnée. On nous emmène un peu à droite, à gauche, et entre les séances très studieuses, très sérieuses, il y a quand même un peu de place pour la distraction, le tourisme.
Maryse Condé, quel est votre message aux francophones, aux francophiles, aux Australiens qui nous écoutent, qui vous écoutent?
Bon, D'abord, je ferai un message très, très égoïste. Je leur dirai, lisez Marie Condé. J'écris beaucoup de livres, plusieurs livres. Je crois qu'il y en a maintenant 15 ou 16 en français, mais qui ont été largement traduits en anglais par mon mari, Richard Filkoff. Donc finalement, tout simplement, je vous demanderai de lisez ces livres-là, faites connaissance non seulement avec Marie Condé, mais aussi peut-être avec la Guadeloupe, avec une partie du monde que vous ne connaissez pas, qui a des problèmes différents des vôtres, mais enfin, tous les problèmes sont des problèmes humains, donc toujours intéressants. Et puis ensuite, intéressez-vous après Marie Condé à d'autres écrivains de cette partie du monde. Et si vous voulez, ce serait une occasion de rompre un peu l'isolement dans lequel peut-être vous nous tenez. L'Australie est très loin des Antilles. Il nous a fallu 3 jours pour arriver chez vous. Il faudrait que la distance physique ne soit pas une distance culturelle. Donc, intéressez-vous à cette partie du monde qui a quand même beaucoup à offrir.
Est-ce que je peux vous demander de nous dire quelque chose en créole de la Guadeloupe?
Oui. Si je vous en dis, vous ne comprenez rien, alors on ne peut pas besoin de dire au revoir, on est bien content par la visite, mais on qui attend de vous autres pour dix autres exactement sans qu'à passer.
Et moi, je vais vous dire quelque chose en créole mauricien. Marie Condé est une grande écrivaine de la Guadeloupe qui peut faire un voyage en Australie. Et elle peut visiter Perth, elle peut visiter Sydney. Profite de l'occasion pour venir rencontrer cette grande dame.
Mais vous êtes de quel pays, vous-même?
Je suis né à l'île Maurice.
Ah bon?
Créole comme vous.
Que nous avons des créoles qui se comprennent, mais qui sont un peu différents.
Absolument. Vous avez compris ce que j'ai dit là tout à l'heure?
Oui, j'ai compris. Mais évidemment, l'accent et le choix des mots est un peu différent. Mais c'est ça, bande-îles, ça veut dire c'est les îles qui parlent un peu le même créole, mais le créole, mais de façon à chaque fois un peu particulière.
Marie Condé, je vous remercie infiniment et bonne journée à vous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Massacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Voilà, juste avant ce titre, Papa Outé du chanteur belge Stromae, c'était la suite des archives de Marie Condé sur SBS Audio il y a 19 ans au micro de notre collègue Jean-Noël Ducasse. Cette interview est à retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au/French. Une autre personnalité féminine a posé ses valises quelque temps en Australie, mais cette fois en 2024, pas en 2005, c'est Sonia Bichet, meilleure ouvrier de France 2023. Christophe Mallet l'a rencontrée dans les cuisines du restaurant Philippe de Melbourne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chef poissonnière et caillère a des conseils originaux pour rester en forme. Interview.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, dans les entrailles du restaurant Philippe à Melbourne, on est avec une des meilleures ouvriers de France, Sonia Bichet. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, on dit ouvrier de France, on ne dit pas ouvrière de France. C'est encore une de ces particularités de la langue française.
C'est exactement ça, mais on peut dire les deux. Mais meilleur ouvrier, ça ne me dérange pas du tout parce que de toute façon, on est égal aux hommes. Donc,
voilà, il y a un beau col bleu-blanc-rouge sur votre blouse. Vous êtes reconnu dans le monde de la restauration, surtout pour ce qui est fruits de mer, poissonnerie. Parlez-nous un petit peu de cette passion. Pour une Parisienne, c'est pas forcément, ça coule pas forcément de sauce en fait du coup.
Non, c'est ça, c'est pas dans la Seine que j'ai pêché ma passion.
On l'espère en tout cas.
Non, je suis meilleure ouvrière de France poissonnier et caillé. Et quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale S, je devais aller en fac de droit et puis premier petit boulot, la poissonnerie. J'ai jamais arrêté et Voilà, ça fait 10 ans maintenant.
Parlez-nous un petit peu du cheminement pour arriver jusqu'à être meilleur ouvrier ou ouvrière de France. On sait que c'est une reconnaissance un peu particulière en France. On sait qu'on a tous ces terroirs qui paraissent peut-être un peu complètement d'une autre planète si on est australien. Mais en France, c'est quelque chose où on est vraiment attaché. Et cette notion d'ouvrier ou d'ouvrière de France, c'est pas un périple, parce qu'on va pas parler de ça de périple, mais c'est compliqué, c'est dur. Mais ce petit col bleu-blanc-rouge, on est fier de le porter. Quand même.
Oui, complètement. Ben, moi, c'était mon rêve. J'ai été meilleure apprentie de France, déjà à 18 ans. Et donc, tout de suite, j'ai voulu être meilleure ouvrière de France. Il faut savoir qu'à l'inscription, il faut avoir 23 ans et que c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans. Donc, en fait, il y a 8 ans, quand j'ai voulu m'inscrire, j'étais trop jeune. Donc, on m'a annoncé qu'il fallait que j'attende 8 ans pour pouvoir peut-être faire une finale des meilleurs ouvriers de France. Et c'est simplement se lever tous les matins et faire tout impeccable. Voilà. Être passionnée, écouter les histoires, apprendre la vie des poissons. Et ouais, être parfaite tous les jours pendant 8 ans.
Et dès que vous avez eu ce titre, vous vous êtes dit, c'est pas assez, je vais partir faire le tour de la planète, parce que les poissons en France, c'est quelque chose, mais les poissons dans le monde, c'est autre chose, et enfin les poissons et les fruits de mer. Et vous êtes donc dans ce cheminement aujourd'hui. Alors, difficile d'aller beaucoup plus loin dans votre voyage, je crois que vous allez en Nouvelle-Zélande après, mais voilà, on est sur le bout de la Terre, même si elle est ronde. Expliquez-nous un petit peu vos découvertes que vous avez fait en chemin, des choses incroyables, des choses peut-être qui vous ont surpris. Parlez-nous un petit peu, faites-nous rêver un peu avec le poisson.
Ouais, bah c'est ça. Après, les meilleurs ouvriers de France, c'est une grosse dépression, parce qu'on sait plus trop quoi faire. Je suis assez jeune, donc j'ai décidé de partir voyager. En effet, j'ai fait 11 pays et je pense qu'il y a tellement d'océans, de mers, la pêche aujourd'hui, c'est quand même d'actualité, l'environnement aussi. Donc voilà, j'ai voulu partir découvrir un peu toutes les histoires pour mieux comprendre ce qui se passait sur Terre. Et donc, je me retrouve en Australie aujourd'hui. Et c'est vrai que ce concept de meilleur ouvrier, donc les ouvriers, que ce soit même poissonnier finalement, mais il n'y en a pas partout sur Terre. Et il y en a beaucoup en France, mais même en Australie, où on se rend compte qu'il n'y a pas d'école de poissonnerie, par exemple. Donc c'est très français.
Parlez-nous un petit peu de cette passion du poisson. Qu'est-ce que vous avez découvert en chemin? Parce qu'il y a des espèces en Australie qu'on n'a pas en France. Il y a des espèces en France qu'on n'a pas forcément en Australie, sauf s'il y a de l'importation, ou ça c'est autre chose, on peut en parler. Mais cette notion de foyer vivant de poisson qui est tellement différent d'un bout de la planète à l'autre en fait.
Ah, complètement. Bah, déjà j'ai commencé même en Islande, beaucoup de poissons séchés. Ici en Australie, vous êtes un pays qui est un petit peu nouveau, on va dire, comparé à la France où on a quand même un gros terroir, un gros miroir et beaucoup de culture ancienne. Et du coup, vous avez un travail du poisson qui est très innovant. Nous, en France, on regarde beaucoup ce que les chefs australiens font avec le poisson. Et vous avez beaucoup la maturation. Vous avez, on prend un poisson, on le découpe un peu comme de la viande. Chaque partie est bonne pour quelque chose. Et du coup, c'est super sympa parce que nous, ça nous permet de mettre un peu de nouveau dans nos poissonneries en France.
Et sur les poissons spécifiques, style le barramundi ou des choses comme ça, je sais que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes arrivé, quelques jours simplement. D'ailleurs, merci de nous accorder cette interview aussitôt depuis votre arrivée. Mais vous avez déjà découvert des choses qui vous titillent un peu les papilles ?
Oui, j'ai déjà découvert le maroon, là, les écrevisses que vous avez. Bah, ce soir, on en sert. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Vos huîtres aussi. Voilà, bon, les huîtres françaises, je suis obligée de dire que c'est les meilleures. Mais vous avez des super huîtres. Et ouais, c'est... Enfin, je pense que je vais avoir plein de découvertes. C'est vrai que je suis arrivée qu'il y a à peine une semaine, donc j'ai pas eu le temps de tout goûter. Mais j'ai hâte de remonter toute la côte australienne pour voir tous vos produits.
Il y a aussi un élément, je pense, qui doit être important pour vous. Il y a le poisson, mais il y a la façon dont on le coupe, la façon dont on le cuisine, la façon dont on met des ingrédients. Si on parle simplement des ingrédients, ici, il y a des choses que vous pouvez pas trouver ailleurs. Des ingrédients plus indigènes, des ingrédients qui peuvent... Aujourd'hui, peut-être, vous n'avez pas encore goûté, mais est-ce que ça vous titille un peu l'esprit aussi et de savoir que vous pouvez travailler avec des herbes un peu différentes, des aromates différentes, des approches complètement différentes à peut-être la base d'une sauce au beurre pour un poisson en France?
Oui, complètement. Et c'est pour ça que dans mon voyage, c'est rempli de rencontres avec des chefs, mais aussi des pêcheurs, des portraits un petit peu atypiques. Et les populations indigènes pour justement comprendre un petit peu et découvrir plein de choses parce qu'en fait, on n'a pas tout en France. Ça, c'est une certitude. Et si on rencontre pas les gens, si on va pas voir les gens et cuisiner avec eux, moi toute seule, c'est difficile de tout découvrir aussi.
C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est très innovant dans l'approche, parce qu'en France, on va pas se le cacher, avouez-vous, on est français, on peut avoir un peu la grosse tête quand on parle de cuisine et de gastronomie, on peut penser tout connaître, mais en fait, le monde est tellement grand que l'Asie a tellement de choses à vous apprendre, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Océanie, l'Afrique, Tout ça, c'est des choses qui, vous, dans un coin de votre tête, vous font rêver toujours, et c'est ce qui fuel un petit peu votre voyage.
Ouais, complètement, ça me fait rêver. Après, honnêtement, hein, la cuisine française me manque.
On est les meilleurs quand même.
Ouais, non, ça fait maintenant 7 mois que je suis partie et je rêve de rentrer en France pour manger parce que bah on a quand même une belle culture. Mais c'est toujours très intéressant de s'ouvrir au monde et j'amène aussi nos connaissances françaises et je prends un peu les touches de tous les pays. On est capable de faire des bourguignons de crevettes, donc voilà, on ramène ce côté français, ces sauces françaises parce qu'on est très fort dans les sauces et on prend un petit peu les épices de partout et je pense que c'est l'avenir, ça va être comme ça aussi.
Est-ce que c'est ce qui vous fait rêver dans le sens où vous faites ce voyage, il n'est pas anodin ce voyage, je pense qu'il y a, vous paraissez être quelqu'un qui a quand même un peu la tête sur les épaules. Derrière, il y a sûrement une idée d'apprendre encore plus, mais peut-être d'en faire plus un métier. Est-ce que vous pensez que vous calez, vous êtes jeune encore, je vais être galant, je vais pas vous montrer votre âge, mais vous êtes largement plus jeune que moi. Mais est-ce que ça veut dire que vous, dans votre objectif de travail pour l'avenir, vous voulez plus vous axer sur le voyage ou plutôt faire découvrir aux Français cette notion de la planète qui est peut-être un petit peu différente que la notion franco-française de l'Hexagone?
C'est une très bonne question. Tout change un peu avec le voyage, mais en fait, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est que nous, les Français, on est très fiers de notre terroir. On mange français. On devrait manger d'ailleurs un peu plus français en ce moment, mais on mange français, on a une belle agriculture. Et je pense que mon but, c'est de continuer le voyage, mais de faire comprendre aux gens qu'il faut manger les produits de chez eux. Voilà. Aller au Québec et... Enfin, l'import-export, c'est très bien, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui exportent tout pour importer d'autres produits. Et mon but, ça serait d'arriver à rendre un peu fier ben, tous les voyages que j'ai faits, toutes ces personnes, de raconter les histoires des pêcheurs et de cette fierté française, d'en faire une fierté québécoise, d'en faire une fierté australienne. Et il faut manger les produits de chez soi et il faut écouter les histoires des pêcheurs, des cuisiniers, des agriculteurs. Parce que, bah, mine de rien, c'est la vie, en fait.
Donc ça veut dire que le Barramundi, on se le garde.
Vous pouvez vous le garder, on a du bar.
Si on parle simplement justement de cette mondialisation, vous êtes encore une fois assez jeune, mais cette mondialisation, nous, on l'a vu grandir et grandir et grandir. Vous êtes peut-être probablement né avec, mais ça vous fait quoi de penser qu'aujourd'hui, on peut manger du poisson qui vient de partout dans le monde, qui a été congelé sur place ou en fait sur le bateau, et qu'en fait, il peut être pêché un jour 1 quelque part et vendu le jour 22 ailleurs à un autre bout de la planète? Pour vous, ça vous... Enfin, vous trouvez que c'est une folie douce, c'est quoi?
Mais, en fait, je sais pas, parce qu'il faudrait se remettre il y a 40 ans, comme nos grands-parents pensaient. Moi, aujourd'hui, je me permets quand même de faire un voyage, de prendre l'avion pour aller découvrir les produits, mais parce qu'on peut le faire. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, peut-être que ramener un produit exotique quelque part, ça émerveillait. Donc, tant que c'est de l'émerveillement, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une industrie complète et qu'on importe énormément pour exporter énormément. Après, est-ce que je suis la meilleure personne pour juger tout ça? Je ne sais pas, parce que je voyage. Mais on ne pourra pas changer les choses, on peut essayer de les améliorer. Et voilà, il faut manger, il faut soutenir les gens qui sont autour de nous. Mais l'émerveillement, entre guillemets, de découvrir un produit, c'est toujours chouette. Il y a des magnifiques produits partout. Donc c'est une question un petit peu délicate.
Ah, c'était pas une question pêche. J'ai vu que ce matin vous êtes allé avec Gabriel Gatté et Philippe d'ailleurs je crois, vous êtes allé visiter certains marchés, enfin l'importance du marché aux poissons dans le sens noble du terme, dans un pays comme, on va se focaliser sur l'Australie, hein, l'Australie, je vais pas demander de comparer avec le mine de Rungis parce que mine de Rungis c'est peut-être un des meilleurs marchés au monde, enfin je le suppose. Aujourd'hui vous avez découvert quoi sur un marché comme celui que vous avez pu visiter? On sait que Sydney par exemple, vous allez découvrir également d'autres choses, que c'est un énorme marché aux poissons. C'est marché dans la chaîne entre guillemets alimentaire.
Honnêtement, moi, mon école de poissonnerie était dans le marché de Rungis, donc j'ai grandi dans le marché de Rungis. Et là où j'ai été très contente hier, c'est parce que le marché de Melbourne, honnêtement, il est super, il est propre, c'est organisé, c'est joli, les poissons sont là. C'est un petit marché de Rungis. Honnêtement, il n'y a pas envie à Rungis. Alors Rungis, c'est le plus grand marché d'Europe, c'est sûr que on a beaucoup plus de poissons entre guillemets. Mais c'était super, super visite.
Sur la qualité des produits, je crois que vous avez goûté des huîtres un peu tôt, mais vous avez de l'habitude, je pense. Mais vous parliez des huîtres, les huîtres, ouais. Les moules, enfin c'est toute cette base de fruits de mer aussi à l'australienne. Plutôt thumbs up, comme on dit, ou thumbs down?
Non, non, c'est top. Ouais, alors déjà, les huîtres le matin, je le conseille à tout le monde. Ça, c'est top.
Carrément, là, faut y aller.
2 huîtres le matin à 6h, je vous jure, votre journée est meilleure. En plus, c'est très bon pour la santé. Le poisson est de très bonne qualité. il est là. Je pense que comparé à la France, en France, on a énormément de poissons de petite pêche pêchés à la ligne. Ici, j'en ai vu un petit peu moins. Après, encore une fois, vous êtes un pays en plein développement. Il faut savoir quand même que l'Australie, j'ai appris aussi que l'Europe rentrait dans l'Australie. Donc, c'est sûr qu'un poisson qui est pêché à Sydney, bah, pour le ramener à Melbourne, voilà, il y a des choses à améliorer, mais par contre, la qualité, elle était quand même là. Et c'était top.
Dernière question, mais la rencontre avec le public australien, comment ça s'est passé? Vous avez déjà fait plusieurs services, il y a des services qui vont être à venir. Comment ça se déroule? Comment vous vous sentez par rapport à ça, à cette rencontre?
Ben moi, je trouve que les Australiens sont très, comment dire, souriants. Ça change un peu des Parisiens. Donc ça se passe super bien. Je suis super contente d'être là et je pense qu'ils sont contents aussi de me voir. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à. En tout cas, ce soir, il n'y a plus qu'à que tout le monde prenne plaisir. Je pense que c'est essentiel.
Merci, bon courage. Et puis, bah, bon vent pour votre voyage.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
On en parlait dans l'émission d'hier, les Jeux Olympiques de Paris qui approchent à grands pas, plus que 3 mois. La flamme a commencé à son périple dans un contexte de polémique autour de la cérémonie d'ouverture ou encore de la sécurité lors de la compétition. Car en effet, ce sont plus de 15 millions de spectateurs qui sont attendus, mobilisant ainsi de nombreuses forces de l'ordre et des agents de sécurité privés. Mais seront-ils assez nombreux? Eh bien, pour faire face au manque de main-d'œuvre, l'État, via France Travail, propose des formations gratuite et rémunérée à des étudiants. Un reportage RFI, signé Sylvie Coffi.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le CQP PSGE, ça fait beaucoup de lettres. En clair, il s'agit du certificat de qualification professionnelle pour participer à la sécurité des grands événements. Un dispositif créé pour former en priorité des étudiants en 3 semaines, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques. Au centre de formation du 12e arrondissement, c'est l'effervescence.
Vous tombez sur un exercice de palpation de sécurité. On est en train de former des PSGE qui vont concourir à assurer la sécurité à l'entrée des grands événements. Là, ils essayent de regarder s'il n'y a pas d'objet interdit que les personnes pourraient faire entrer dans l'événementiel. Donc, les armes et tout autre objet prohibé par le code du sport.
Étudiante en droit, Inès s'entraîne à contrôler le public féminin.
Bonjour, palpation de sécurité, s'il vous plaît, décroisez vos bras.
L'occasion pour elle de découvrir ce métier.
Je m'y suis intéressée via Pôle emploi. C'est aussi une nouvelle expérience qu'on peut vivre et ça nous apprend aussi à gérer des conflits. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre gilet, s'il vous plaît? Merci. Ok, vous pouvez y aller. Bon match.
On a une mauvaise image des agents de sécurité?
Oui, bien sûr, ils ne sont pas très bien respectés pour la plupart. Certaines personnes ne considèrent pas leur métier alors qu'ils jouent un grand rôle quand même dans la sécurité auprès des personnes.
Pas question pour ces étudiants de faire des rondes ou d'intervenir sur des incendies. Positionnés à l'entrée des sites sportifs, ils vont surtout filtrer les accès. Avec son brassard rouge, Thibaut, étudiant en langues étrangères, répète les gestes.
Oui, je suis déjà prêt pour participer aux JO et assurer la sécurité des événements et permettre aux visiteurs de vivre une expérience exceptionnelle.
On commence par fouiller la capuche, puis finalement on va fouiller les bras, puis le torse pour voir si finalement s'il n'y a pas d'objet dangereux, puis on va finir par le bas.
Tandis que d'autres pensent déjà à leur carrière.
C'est mon domaine, je fais un CAP aussi pour ça, pour travailler dans la cybersécurité et en même temps travailler dans l'armée. Du coup, si j'ai ça dans mon CV, j'ai plus de chances d'avoir un travail.
Et sur ce marché, la demande est forte. Najat Chamali, responsable du pôle sécurité chez Envergure.
À la fin de la formation, on a des entreprises attributaires qui viennent faire un job dating, qui expliquent comment ça va se passer demain, les Jeux Olympiques, les besoins, etc. Et puis le stagiaire se positionne directement sur le marché via ces entreprises partenaires et attributaires du coup des Jeux Olympiques.
Événements sportifs ou musicaux, depuis avril 2023, plus de 1000 jeunes ayant reçu la formation n'ont déjà aucune difficulté pour obtenir des missions.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Des roses de cristal crissent et s'amollissent. Mon amour sans
que la vie a que la vie est belle.
Zoé de Sagazan avec le titre « Ah, que la vie est belle, messieurs, dames ». Allez, pour terminer cette émission, la deuxième partie de l'épisode de notre podcast « L'histoire cachée de l'Australie » consacrée à l'avocat, ce fruit originaire d'Amérique centrale qui a fini par occuper une place prépondérante dans la gastronomie australienne. Et là encore, si vous souhaitez écouter cette interview en intégralité, eh bien rendez-vous sur notre site internet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un fruit originaire d'Amérique centrale, mais qui est devenu essentiel et partie prenante de la gastronomie australienne. Il s'agit de l'avocat. Alors pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons aujourd'hui Romain Fatti, historien depuis peu à l'Australian National University de Canberra. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Il y a plus de 120 000 tonnes d'avocats qui sont produits chaque année, d'après les chiffres les plus récents. Ça a doublé au cours des 10 dernières années et c'est une production estimée à 600 millions de dollars. Donc Ken Peg avait sans doute raison de se battre pour assurer la viabilité de la production des avocats.
Et je me permets une petite incise, c'est d'autant plus pertinent qu'en ce moment même, le département des affaires étrangères et du commerce australien négocie avec un certain nombre de pays pour exporter ces avocats. De manière générale, la production australienne, elle est pour une consommation locale, parce qu'on en consomme énormément. Et ce qu'on consomme en Australie n'est pas suffisant, donc on importe aussi des avocats. Mais, l'industrie australienne ayant vu une telle demande dans les années 2000-2010 que de nombreux arbres ont été plantés. Et ça prend souvent quelques années avant qu'un arbre puisse donner des fruits. Et donc on sait que la production en 2025, 2026, 2027 va être extrêmement importante. Et donc là, un accord a été trouvé avec l'Inde, qui est un tout petit marché, parce que peu d'Indiens consomment des avocats, mais finalement, comme il y a beaucoup d'Indiens, c'est un marché important. En ce moment, l'Australie exporte la grande partie des avocats australiens qui sont exportés, le sont en direction quasiment exclusive de Singapour et de Hong Kong. Mais on voit bien que voilà, l'industrie essaie de se positionner pour faire partie des leaders mondiaux dans la production d'avocats, puisque l'Australie n'est pas la seule. Évidemment, vous en trouverez en Californie, vous en trouverez en Amérique du Sud, vous en trouverez même en Europe, qui exporte des avocats, l'Espagne par exemple.
Oui, alors bien sûr, en la matière, effectivement, le leader incontesté mondial, ça reste le Mexique. Le Mexique, où on a plutôt tendance à manger l'avocat sous forme de guacamole, vous le disiez tout à l'heure. En Australie, le guacamole, on en mange aussi. On en trouve d'ailleurs tout près dans quasiment tous les supermarchés. Mais la particularité, peut-être, c'est qu'on a plutôt tendance à l'étaler sur les tartines. C'est ce qu'on appelle le smashed avo on toast. Et la première fois qu'on voit ce plat apparaître sur un menu, c'est en 1993 dans un café de Sydney.
Alors, à la fois oui et non. C'est vrai que les historiens peuvent être un peu pointilleux sur la question des origines. On sait que les précolombiens étalaient sur des galettes de maïs, ouais, leur avocat. Donc, peut-être que eux étaient réellement les premiers à faire du smashed avo on toast, dans la mesure où effectivement ils étalaient leur avocat. L'avocat, il faut voir qu'il y a beaucoup de bons lipides. Donc, quand vous êtes une population, avant le 19e, 20e siècle, l'intérêt de survie est important et donc les lipides sont importants. Mais pour revenir à la question de l'avocado on toast en Australie, j'ai trouvé un article du Télégraphe, qui est un ancien journal de Brisbane, où une dénommée Margaret Cullen parlait d'un restaurant dans lequel elle avait trouvé de l'avocat sur du pain avec un peu de sel et de poivre, et qu'elle avait trouvé ça très bon, et on est en 1929. Ah. Donc un restaurant de Brisbane l'a fait avant la Nouvelle-Galles du Sud. Mais en fait, ce sont des choses qui apparaissent et disparaissent au gré des modes alimentaires en réalité, puisque c'est comme l'événement, il y a des fruits et des légumes qu'on va consommer qui vont être à la mode pendant quelques années, puis ça va disparaître, puis ça va revenir. Mais c'est vrai que depuis les années 90, et le restaurant que vous avez mentionné à Sydney qui effectivement l'a remis à l'ordre du jour, le succès est allé croissant au point qu'aujourd'hui il n'y a quasiment aucun café en Australie où vous ne pourrez pas commander de l'avocat écrasé avec peut-être un peu de tomate ou quelques herbes ou du sel et du poivre sur une tranche de pain. C'est devenu extrêmement commun, un peu comme le bacon and eggs, quoi, le bacon avec des œufs.
Alors effectivement, j'aurais dû préciser que ce fameux restaurant qui s'appelle Bill's, c'était pas une première mondiale, c'était, à vrai dire, d'après ce que vous venez de dire, même pas une première australienne, mais c'est en tout cas vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette popularité énorme qui fait que maintenant, effectivement, c'est absolument partout, dans tous les restaurants. Et d'ailleurs, on en arrive au point suivant, c'est que cette popularité de l'avocat écrasé sur les tartines, ça a même fait l'objet d'une controverse politique il y a quelques années de ça, puisque un mania de l'immobilier, un monsieur qui s'appelle Tim Gurner, c'était il y a quelques années de ça, il était déjà de question d'une crise du logement avec le prix des logements tellement élevé que les jeunes sont plus capables d'accéder à la propriété comme leurs parents avant. Et ce monsieur, Tim Gurner, estime que si les jeunes n'ont pas les moyens de s'acheter une maison ou un appartement, c'est parce qu'ils mangent trop d'avocats écrasés sur des tartines. Et ça va faire un bruit énorme, on va en parler pendant des semaines dans la presse à débattre si oui ou non ce monsieur a raison ou s'il raconte n'importe quoi.
Oui, complètement. Vous savez, parfois, quelqu'un va trouver une expression et elle va prendre, la mayonnaise va prendre. Et là, en l'occurrence, il ne se doutait pas qu'il allait enflammer les barils de poudre et créer une controverse générationnelle entre les Australiens d'un certain âge qui ont un voire plusieurs biens immobiliers, donc les personnes au-delà de 50 ans et en particulier ce qu'on appelle les baby boomers, donc les maintenant fin soixantaine, plutôt 70 ans, qui voilà ont accès au marché de l'immobilier. Et qui, bien sûr, ont cette idée que eux ont réussi grâce au travail, grâce aux valeurs, et qui, comme si le contexte socio-économique des Trente Glorieuses ne leur avait pas profité à plein. Hein, contrairement à ces jeunes dans leur vingtaine et leur trentaine qui vont prendre un café et dépensent $20 dans des avocats écrasés sur du pain. Qu'est-ce que c'est que cette décadence? Donc, c'était un clash générationnel qui illustrait un changement de valeur, mais aussi une société divisée entre ceux qui peuvent avoir accès à la propriété et ceux qui, même s'ils économisaient en n'allant plus au café, mettraient des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, puisque, voilà, si vous avez une maison à 800 000, 900 000 dollars, c'est pas économiser $20 d'avocat une fois par semaine qui va vous donner accès à la propriété, malheureusement. Donc c'est quelque chose qui était bien trouvé et qui encore aujourd'hui résonne. Hein. Les Australiens n'ont pas oublié cette controverse de l'avocat. Mais il y avait cette idée que, voilà, commander un avocat au café écrasé sur du pain, c'était un peu décadent, alors qu'en réalité, il suffirait à l'ancienne de prendre du bacon and eggs et de se retrousser les manches et de travailler, et puis on pourrait avoir une maison, ce qui est complètement absurde vis-à-vis de la configuration économique australienne en ce moment.
Oui, d'autant qu'un bacon and eggs dans un café, c'est le même prix, voire plus cher qu'une tartine à l'avocat. Je rappelle par ailleurs qu'au moins à Sydney, le prix médian d'une maison est de 1,6 million de dollars, donc ça ferait beaucoup, beaucoup de tartines dont il faudrait se priver pour pouvoir s'en offrir une. Merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces explications. Je me permets de revenir sur le livre que j'ai cité tout à l'heure, qui ne parle pas que d'avocat, mais qui est vraiment un très bon livre. Ça s'appelle donc « The Land Before Avocado ». C'est écrit par, je crois, un ancien chroniqueur de ABC qui s'appelle Richard Glover et qui, en fait, prend un contre-pied intéressant puisqu'il compare sa jeunesse à Canberra, en l'occurrence dans les années 60-70, et il tord un peu le cou à cette idée que tout était mieux avant. Et lui, en fait, il explique que ce soit sur le plan de la gastronomie, du logement, de l'emploi, du rapport entre les hommes et les femmes, des voitures qu'on conduit, eh bien que l'Australie, non, c'était pas mieux avant, c'était même, à l'en croire, assez proche de l'enfer. Donc voilà, et accessoirement, c'est écrit de façon très amusante et ça se lit très facilement. Voilà. Merci encore Romain Fati pour ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode.
À très bientôt, je vous remercie.
C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci infiniment de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur sbs.com.au/french. Et si vous voulez plus d'actualités, les dernières actualités, c'est sur le site sbs.com.au/news. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end, un bon dimanche. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, 13h sur SBS1 avec Léo Roussel. Pour ma part, je m'appelle Marianne Murat et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.